un point d'interrogation. Je ne dis pas simplement reconstruction théocratique, mais reconstruction théocratique avec un point d'interrogation. D'après le Robert, qui est une des grandes références, il y a deux grandes références pour le français, c'est le Littré et le Robert. Et je vous conseille d'avoir au moins sous leur forme abrégée un exemplaire soit du Littré, soit du Robert. Alors d'après le Robert, le mot théocratie est apparu en français en 1679, donc à la fin du XVIIe siècle, et désigne, je cite, « un mode de gouvernement dans lequel l'autorité censée émaner directement de la divinité est exercée par une caste sacerdotale ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu sur la terre. » Et le Robert ajoute que, par extension, la théocratie est le régime où l'Église, les prêtres, jouent un rôle politique important. Je dirais que cette définition du Robert correspond tout à fait à l'idée commune qu'on peut avoir au sujet de la théocratie. Mais je dirais que c'est de la part de Robert jouer sur les mots. Parce que la théocratie, étymologiquement, désigne le gouvernement de Dieu, le gouvernement de Jésus-Christ qui est Dieu. Et donc, d'une certaine façon, le gouvernement de la parole, loi, évangile de Dieu, de la parole de Dieu, de l'Écriture sainte. Ce dont parle Robert et la plupart des gens, ce n'est pas de la théocratie, mais de l'ecclésiocratie ou de la cléricocratie, comme on parle de la démocratie ou de la tyrannocratie. En réalité, il y a deux mots grecs là-dedans, il y a le mot pouvoir, et il y a le pouvoir de l'Église, ou le pouvoir des clercs, ou le pouvoir du peuple, ou le pouvoir du tyran. Bon, mais le mot théocratie, c'est le défigurer, de le définir en l'identifiant à l'ecclésiocratie ou à la cléricocratie. Je pense que le mot théocratie, au fond, est un mot qui va tout à fait dans le sens biblique, en ce sens que, selon la Bible, et c'est notre foi, Dieu règne souverainement sur le monde, sur les nations, sur l'Église. Et ce règne de Dieu, ou royaume de Dieu, c'est littéralement la théocratie au vrai et bon sens du mot. Évidemment, quand je parle de reconstruction théocratique, je ne parle pas d'une reconstruction possible ou souhaitable du pouvoir de l'Église, ou du pouvoir des clercs, des prêtres, mais j'entends reconstruction de l'obéissance de l'Église et des hommes au pouvoir de Dieu. La théocratie, c'est le pouvoir de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. Et en fait, de droit, toute la vie des hommes, personnelle et sociale, en tout domaine, doit être gouvernée par la volonté de Dieu exprimée dans ses lois. Et l'Écriture sainte décrit, définit l'existence humaine dans ses aspects personnels et sociaux, comme un ensemble un et divers régi par les lois établies, posées, définies, décrites, comme on voudra, par Dieu. Donc, l'expression biblique la plus exacte, me semble-t-il, de la théocratie, c'est celle qu'on trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, avec cette proclamation: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je souligne le « et sur la terre ». Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cette proclamation étant suivie d'un ordre: allez, faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et enfin, la promesse, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la définition vraie de la théocratie. Il aurait fallu que Robert, en rédigeant son dictionnaire, connaisse cette parole ou se réfère à cette parole et ne confonde pas, comme il le fait finalement, théocratie et ecclésiocratie ou théocratie et cléricocratie. Donc, la fin de l'évangile de Matthieu nous donne l'approximation, la description, la définition la plus juste qu'on peut donner du mot théocratie, si on l'entend bien. Seulement, évidemment, il faut faire attention dans nos entretiens avec tel ou tel, quand quelqu'un s'en prend à la théocratie ou attaque la théocratie, il faut lui demander, au fond, qu'est-ce que vous voulez dire par théocratie ? Qu'est-ce que vous voulez dire par théocratie ? Si vous voulez dire par théocratie le gouvernement de l'Église ou le gouvernement éclair, nous sommes d'accord, il faut rejeter la théocratie. Mais si la théocratie c'est le gouvernement de Dieu, alors là, je dirais qu'au contraire, la théocratie est la perspective dans laquelle nous devons nous situer en tant que chrétiens. Je fais une petite parenthèse de théologie pratique. C'est que souvent il faut demander aux gens de définir les mots qu'ils emploient, sans ça la discussion risque de ne pas être bonne. Je pense à ça comme pasteur, il m'est arrivé très souvent en rapport avec des mariages où il y avait la partie catholique et la partie protestante, l'entretien avec des prêtres ou même des entretiens avec certains catholiques, me disant « Oh, pour vous protestants, le mariage n'est pas un sacrement ». Et je répondais en posant cette question, j'ai toujours répondu à mon sujet, qu'est-ce que vous appelez un sacrement ? Alors finalement, on s'apercevait que dans l'esprit de celui qui disait sacrement, il y avait, c'était un acte de Dieu, et donc un moment sacré, un acte sacré. Alors je répondais, mais alors, si c'est comme ça que vous définissez le sacrement, le mariage est un sacrement. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, souvent on dit, pour les protestants, il y a deux sacrements, le baptême et la Sainte-Seine. Mais je dirais, si le sacrement c'est un acte sacré, il y en a beaucoup d'autres que ça. Le mariage est un acte sacré, la bénédiction est un acte sacré, l'imposition des mains pour ordonner ministre de l'Église est un acte sacré, etc. Donc, et je dirais scripturaire, c'est l'Écriture qui définit le mariage comme un acte sacré, etc. Si au contraire, on précise le sacrement dans un autre sens, il faut voir. Autrement dit, dans nos entretiens, faisons toujours attention à bien saisir en quel sens notre interlocuteur donne tel mot, ou bien précisons aussi en quel sens nous entendons tel mot. Alors, par exemple, la théocratie, comme généralement la plupart des gens font le contresens que fait le Robert, donc c'est presque acquis dans les dictionnaires et dans la langue française, eh ben, nous employons le mot théocratie et nous précisons ce que nous voulons dire par théocratie. Et je dirais, nous rappelons comme fondement et définition du mot théocratie ce qui est dit par notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de l'évangile de Matthieu. Bon, alors, premier paragraphe de mon cours d'aujourd'hui, le projet de chrétienté et les divers humanismes. En 1932, alors que j'avais 17 ans, je suis tombé regardant les bouquins d'une librairie sur un livre qui était paru plusieurs années auparavant, puisqu'il était paru en 1927, 5 ans donc avant que je le lise, que je l'achète et que je le garde, parce que c'est un livre qui m'a toujours accompagné, je l'ai gardé. C'est le livre traduit du russe, d'un russe dont vous connaissez sans doute le nom, le philosophe Nicolas Alexandrovitch Berdiaev. Et ce livre s'appelle « Un nouveau Moyen-Âge ». C'est publié dans une collection qui s'appelle « Le Roseau d'or » et c'est Plomb qui en était l'éditeur. 1927, donc, dans cette collection du Roseau d'or, « Le Nouveau Moyen-Âge ». Et c'est un livre, je dirais, qui m'a accompagné, je viens de le dire, et qui m'a tout à fait repris, si j'ose dire, lorsque j'ai pris connaissance des théologiens réformés du mouvement de la reconstruction chrétienne. Parce que c'est étrange, mais Berdiaev, au fond, avait, en 1927, peut-être même avant, enfin, son livre a été publié en français en 1927, Berdiaev, il a eu une vie très mouvementée, parce que il a eu des embêtements avec le tsar, il avait été relégué un temps dans le nord de la Russie, et puis quand est arrivée la révolution russe de 1917, jusqu'en 1922 ou 23, je ne me rappelle pas exactement, il a pu quand même rester en Russie et publier un certain nombre de choses, et puis en 1922 ou 23, il a été exilé, il a d'abord résidé en Allemagne, et puis ensuite il a résidé à Paris, et c'est à Paris finalement qu'il est mort, en étant d'ailleurs assez âgé. Et Berdiaev, qui est un des grands philosophes chrétiens et orthodoxes du XXe siècle, ça a été un de ses premiers ouvrages et important. Alors j'ai pensé rapidement vous lire quelques passages, vous comprendrez pourquoi j'ai toujours gardé quelque chose de ce livre de Berdiaev dans l'esprit. Voilà, alors il écrit donc au début du XXe siècle, enfin un peu après la guerre de 14-18, mais enfin il a dû rédiger ça vers 1925, mettons, publié en 1927. Nous pénétrons dans le royaume de l'inconnu et de l'invécu, nous y pénétrons sans joie, sans radieux espoir. L'avenir est sombre, nous ne pouvons plus croire aux théories du progrès qui ont séduit le XIXe siècle et en vertu desquelles le proche avenir devrait être toujours meilleur, plus beau, plus aimable que le passé qui s'en va. Nous sommes plutôt enclins à juger que le meilleur, le plus beau et le plus aimable se trouve non dans l'avenir, mais dans l'éternité, et qu'il était aussi dans le passé, en tant que le passé communié à l'éternité et suscité de l'éternel. Il reste à expliquer cette crise de la civilisation européenne, ouverte depuis longtemps par différents côtés, et qui aujourd'hui atteint l'apogée de sa manifestation. L'histoire moderne qui s'achève a été conçue à l'époque de la Renaissance. Nous assistons à la fin de la Renaissance, à la place de Renaissance. D'ailleurs, il le fait à plusieurs reprises dans son livre. Après, on pourrait mettre l'humanisme. Nous assistons à la fin de l'humanisme. Ça, c'était en 1920 et quelques, et nous sommes en 1994. Et il avait vu les horreurs de la Première Guerre mondiale, mais il n'y avait pas eu encore non seulement la Seconde Guerre mondiale, mais le massacre de millions de juifs, etc. La fin de la Renaissance est précisément la fin de cet humanisme qui lui servait de base spirituelle. La foi en l'homme et dans les forces autonomes qui le soutenaient est ébranlée jusqu'au fond. Elle avait régi, cette fois en l'homme, l'histoire moderne, mais l'histoire moderne s'est chargée de la démanteler. Le libre vagabondage de l'homme, ne connaissant plus aucune autorité supérieure, n'a pas affermi sa foi en lui-même, bien au contraire, il a irrémédiablement affaibli cette foi et compromis la conscience qu'il avait de son identité. L'humanisme n'a pas fortifié, il a débilité l'homme. Tel est le dénouement paradoxal de l'histoire moderne. À travers son auto-affirmation, l'homme s'est perdu au lieu de se trouver. L'homme nouveau voulut être auteur et ordonnateur de la vie, sans le secours d'en haut, indifférent aux sanctions divines. L'homme s'est arraché du centre religieux auquel avait été soumise toute sa vie durant le Moyen-Âge. Il a voulu marcher par une voie libre et indépendante. Lorsque l'homme, ainsi que nous venons de le dire, a rompu avec le centre spirituel de la vie, il s'est arraché de la profondeur et a passé à la surface. Son éloignement du centre spirituel l'a rendu de plus en plus superficiel. Ayant perdu le centre spirituel de l'être, il a perdu par la même occasion son propre centre spirituel. Une telle décentration de l'essence humaine était la ruine de sa constitution organique. L'homme a cessé d'être un organisme spirituel, et alors, à la périphérie même de la vie, ont surgi des centres trompeurs. Les organes subordonnés de la vie humaine s'étant affranchis de leur relation organique avec le centre véritable, se sont eux-mêmes proclamés centres vitaux. En conséquence, l'homme devint de plus en plus superficiel. En notre siècle, arrivé au pinacle de l'ère humanisme, Et je dis, il n'avait pas encore tout vu. L'homme européen se dresse dans un état de vacuité terrible, il ne sait plus où est le centre de sa vie, sous ses pieds, il ne sent pas de profondeur, il se voue à une existence archi-plate, il vit sur deux dimensions, comme s'il habitait exactement la surface de la Terre, ignorant ce qui est au-dessus de lui et ce qui est au-dessous. Il y a donc une formidable distance et une formidable contradiction entre le commencement de l'ère humaniste et sa fin. Et plus loin, je lis, « Lorsque nous parlons d'un passage de l'histoire moderne au Moyen-Âge, c'est une façon de nous exprimer. Le passage n'est possible qu'à un nouveau Moyen-Âge et non pas à l'ancien. C'est pourquoi on doit considérer cet événement comme une révolution de l'esprit, une activité créatrice en avant et nullement comme une réaction. En réalité, la civilisation médiévale était déjà une renaissance, une lutte contre cette barbarie et ces ténèbres qui avaient survécu à la chute de la civilisation antique. Le christianisme avait été la lumière dans les ténèbres, la transmutation du chaos en cosmos. Le Moyen-Âge est très complexe et très riche. On fut longtemps persuadé qu'il avait formé un grand vide dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la pensée. Seulement en ces mêmes siècles, il y avait une telle quantité de penseurs admirables et une telle diversité dans le monde de la pensée qu'on ne saurait rien trouver de semblable à aucune autre époque. Pour le Moyen-Âge, le substantiel, le vivant, était ce que les temps modernes considèrent comme un superflu. Le retour au Moyen-Âge est donc un retour à un type religieux plus élevé. Nous sommes loin encore des sommets de la culture médiévale dans l'ordre de l'esprit. Plus loin, toutes les activités autonomes de la civilisation et de la vie sociale sont parvenues au vide et au néant. Le pathétique de la création indépendante et séculière est épuisé. À l'intérieur de toutes les sphères de création s'éveille le désir d'une élection religieuse, d'une existence authentique et d'une transfiguration de la vie. Aucune des sphères de la création, aucune des faces de la culture et de la vie sociale ne peut demeurer neutre en matière de religion, c'est-à-dire pleinement séculière. La connaissance, la morale, les arts, l'État, l'économie doivent devenir chrétiens, mais librement et de l'intérieur, et non par contrainte et de l'extérieur. Aucune théologie ne régit de l'extérieur le processus de ma connaissance et ne m'impose de normes. La connaissance est libre, mais je ne peux plus réaliser les fins de la connaissance sans me tourner vers l'expérience religieuse, sans une initiation chrétienne au mystère de l'être. En cela, je suis déjà un homme du Moyen-Âge et non plus un homme de l'histoire moderne. Ce n'est pas l'autonomie de la religion que je cherche la liberté dans la religion. Aucune hiérarchie ecclésiastique ne régit et ne régularise aujourd'hui la vie sociale et la vie de l'État. Aucun cléricalisme ne pourra s'emparer de la force extérieure, mais l'État et la société doivent être recréés au nom de principes chrétiens. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que c'est quand même formidable de penser que c'est un bouquin, je répète, paru en 1927. Eh bien, voyez, ça m'avait tellement impressionné que lorsque, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, j'ai commencé à lire les théologiens dits de la reconstruction chrétienne, je me suis dit, mais au fond, il y a dans Berdiaev, vous savez, souvent chez les Russes, c'est comme ça avec Soloviov, c'est déjà comme ça avec Dostoïevski, il y a quelque chose de prophétique. Si vous lisez Dostoïevski, il faut lire Dostoïevski, il faut non seulement lire Crime et Châtiment, mais il faut lire surtout peut-être Les Possédés. On a traduit Les Possédés, il paraît qu'en russe, le mot c'est les démons. Hein, les démons, et puis il faut lire Les Frères Karamazov et tout ça. Ce sont des œuvres qui sont prophétiques. Quand on pense que Dostoïevski a écrit tout ça dans le dernier quart du XIXe siècle, donc il y a un siècle, et tout cela, il l'a prophétisé. Et un autre qui est moins connu, c'est Vladimir Soloviov, et dans Vladimir Soloviov, on trouve la même chose. Donc, ça, et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, en relisant ce livre, parce qu'hier j'ai profité pour le relire tout entier, je me suis aperçu qu'à la fin de son livre, justement, il dit, nous en sommes à un point où il serait bon de se rendre compte. Dostoïevski le comprenait, Vladimir Soloviev le comprenait aussi. Je me suis dit, c'est pas ça, parce que tout de suite, j'avais pensé justement à Dostoïevski et Soloviev, et Berdiaev s'y réfère explicitement. Donc, le projet de chrétienté, c'est un projet de civilisation, de culture chrétienne. C'est une volonté de christianiser tous les domaines de l'existence. C'est la chrétienté devenant coextensive à la vie dans toutes ses manifestations personnelles, sociales, économiques, politiques, artistiques, etc. Et là, au fond, on peut citer un passage de saint Paul qui montre bien cela. C'est au chapitre 10 de la seconde aux Corinthiens, les versets 4 et 5. Si nous, on peut reprendre un peu avant, au verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à Jésus-Christ. Eh bien, ça, c'est ça la christianisation. Ramener tout à la théocratie, ramener tout à l'autorité de Jésus-Christ qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et nous avons donc, me semble-t-il, à œuvrer au remplacement des humanismes actuels, quels qu'ils soient, par un nouveau Moyen-Âge, pour reprendre le titre de Berliaev, pour un nouveau Moyen-Âge, c'est-à-dire pour un retour à l'ancien Moyen-Âge, mais pour un Moyen-Âge nouveau, un nouveau Moyen-Âge, une chrétienté nouvelle, et cela ne se fera que par la régénération d'une multitude de personnes humaines qui seule provoquera un salut compréhensif, c'est-à-dire englobant la totalité de l'histoire. Alors là, je fais une petite parenthèse. C'est au point de vue du Notre Père. Vous savez que le Notre Père, nous le récitons, parce qu'on s'est entendu en France, en tout cas, avec les catholiques romains et les orthodoxes, sur une traduction pour que dans des réunions communes, tout le monde puisse dire la même chose du Notre Père. Mais au fond, le Notre Père, si on examine de près le texte grec, et si, plus exactement, on suit le texte grec, si on colle au texte grec, voilà ce que ça donne. Et je pense que c'est bon de bien le voir. Notre Père qui es aux cieux, que sur la terre comme au ciel, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain surnaturel, épiousion. Surnaturel. Donne-nous aujourd'hui notre pain sur la terre. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons aussi à nos débiteurs. Ne nous amène pas dans l'épreuve tentation, per Erasmus, mais délivre-nous du malin. Et la conclusion, l'acte d'adoration, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Je dirais que s'il y a une prière théocratique, c'est le Notre Père. C'est une prière théocratique. Et je crois que c'est dommage que la plupart de nos traductions ramènent le sur la terre comme au ciel, au seul que ta volonté soit faite. Parce que, je dirais, ça va tout ensemble. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Au ciel, avec les anges, le nom de Dieu est immédiatement et sans murmure sanctifié. Le règne de Dieu existe en plénitude dans le ciel. Et la volonté de Dieu est exécutée par les anges, je dirais, en totale discipline. Eh bien, on demande qu'il en soit de même sur la terre. Voilà. C'est le mouvement théocratique. Au fond, quand un chrétien dit le Notre Père, il s'en rend peut-être pas compte, mais c'est ça qui manque, la réalisation théocratique sur la terre du règne de Dieu. Et je dirais, vous savez, aussi on dit pardonne-nous nos offenses, c'est pas du tout ça dans le texte grec. Dans le texte grec, c'est remets-nous nos dettes comme nous les remettons aussi à notre débiteur. Pourquoi? Parce que ce que nous devons à Dieu dépasse le pardon de nos péchés. Dieu, il faut que Dieu nous pardonne nos péchés, ça fait partie de la remise de nos dettes. Mais c'est plus que ça. Nous devons à Dieu plus que ça. Nous avons besoin plus que du pardon de Dieu. Et Dieu doit nous remettre, pas seulement nos péchés, mais il doit nous remettre tout ce que nous oublions de faire pour sa gloire. Et je dirais, il y a donc un ensemble, et de même, le texte grec est très clair, ne nous amène pas. Alors là, il y a le mot peirasmos qui signifie à la fois épreuve et tentation. Du côté de Dieu, en ce qui concerne Dieu, qui ne tente personne, il n'y a qu'épreuve. Mais en ce qui concerne le diable, il y a tentation. Alors c'est intéressant de voir que c'est le même mot grec, peirasmos, qui signifie à la fois épreuve et tentation. Quand nous sommes tentés, j'ajoute par le diable, d'une certaine manière, c'est que Dieu, qui est au-dessus du diable, permet au diable de nous tenter, mais en réalité, Dieu nous met à l'épreuve. Alors comme nous savons notre faiblesse, nous demandons Dieu, écoute, ne m'amène pas dans l'épreuve tentation, parce que je ne sais pas ce que je fais, mais délivre-moi du mal. Et mieux que moi, là il y a, parce que tout le temps c'est à la première personne du pluriel, c'est délivre-nous du mal. Traduction latine de notre père est très belle d'ailleurs, libera nos a malo. Alors, je crois, si vous voulez, que nous ne voyons pas souvent la portée réelle, j'allais dire théocratique, des textes comme la fin de l'évangile de Matthieu, comme le Notre Père, mais on pourrait parler de bien d'autres choses. Quand saint Paul dit qu'il faut amener toute pensée captive à Jésus-Christ, il ne dit pas qu'il faut amener la théologie captive à Jésus-Christ seulement. Mais toute pensée, et la philosophie, et les sciences, et les arts, tout ce que l'homme peut concevoir, tout ça, ça doit être amené à Jésus-Christ. C'est ça la christianisation, c'est ça le développement théocratique de l'histoire. Et c'est ça, je dirais, le nouveau Moyen-Âge qu'a prophétisé Berdiaev. Voilà. Alors, nous passons maintenant au deuxième paragraphe de mon cours, l'ordre culturel et l'ordre missionnaire. Nous avons affaire à deux grands ordres de Dieu. Et ces deux ordres, généralement, nous ne les unissons pas. Le premier ordre, c'est Genèse 1, 26 à 28. C'est l'ordre qu'on appelle l'ordre culturel. Parce que le mot culture est d'ailleurs employé par la suite dans le texte de la Genèse, au chapitre 2 de la Genèse. Alors je vous lis ce texte. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine, alors là, sur les poissons de la mer, les eaux du ciel, le bétail, la terre, enfin sur tout. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez. Voilà l'ordre culturel. Je dis culturel, ça colle très bien parce qu'un peu plus tard, au chapitre 2, il nous est dit que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, et le garder. Et je dirais, là il s'agit bien sûr de la culture au sens ordinaire du mot, de la culture au sens paysan du mot, au sens jardinage du mot, mais je dirais, c'est aussi pas seulement l'agriculture, mais c'est la culture sous toutes ses autres formes. On pourrait parler de polyculture, parce qu'il y a toutes sortes de formes de culture. Et l'homme est chargé et a été placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Bon. Et de là, partons du jardin d'Éden pour aller vers le monde entier. Parce que, au fond, normalement, tout part du jardin d'Éden et doit aller partout. Ce qui rapproche, je dirais, les deux choses. L'ordre culturel, c'est à partir du jardin d'Éden et vise la terre entière. De même que l'ordre missionnaire part de la terre sainte et vise la terre entière. De même que si l'ordre culturel, à partir d'Adam et d'Ève, dépeint la tâche du genre humain, l'ordre missionnaire, à partir des 12, définit la tâche de l'humanité nouvelle. Donc, ça va ensemble. On pourrait faire d'autres rapprochements. Le fait que, dans un cas comme dans l'autre, il est question de l'image de Dieu. L'image de Dieu est établie dans la création et l'image de Dieu est renouvelée par la rédemption. Et puis, on peut voir que dans l'ancienne dispensation de l'Alliance, c'est Israël qui est chargé de la mission évangélisatrice et culturelle. Ça, vous avez les grands textes de Deutéronome 4 et de Deutéronome 28 qui le montrent. Mais dans la nouvelle dispensation, c'est l'Église, à savoir les Juifs et les nations. Parce que c'est ça, si vous voulez, la différence, c'est que le peuple de Dieu, dans l'ancienne dispensation, c'est les Juifs, c'est Israël. Tandis que le peuple, dans la nouvelle dispensation de l'Alliance, c'est Juifs plus nation. Et on peut dire qu'il y a une sorte d'équation pour définir l'Église, Église égale Juifs plus nation. Et tandis que Israël, c'est les Juifs tout seuls, en un sens. Mais quand même avec une tâche d'évangélisation qui leur est proposée. Mais alors, de même, on peut penser à ce qui est dit au point de vue de la Trinité. Vous avez lu au début de Genèse 1, 26, il est dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » C'est d'ailleurs singulier. Donc il y a comme une indication, j'allais dire une indication très subtile, mais une indication cependant très réelle de la Trinité, du pluriel qui est en Dieu. Elohim, ne l'oubliez pas, c'est un mot pluriel. Dieu, c'est lui les dieux, comme disait Franck Duquesne. Bon, c'est Dieu. Et le Dieu est un et pluriel. Il est unique et multiple et pluriel. Et vous retrouvez aussi l'indication de la Trinité dans l'ordre missionnaire, puisque l'Église doit partir et baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, alors, je dirais, il y a un rapport très étroit en l'ordre culturel et l'ordre missionnaire. Et si vous vous souvenez, je vous disais hier, au fond, de quoi qu'il soit question, dans nos entretiens avec les hommes, et en particulier avec les hommes, bien sûr les hommes et les femmes, enfin, vous savez, à l'heure actuelle, ça devient terrible. Moi, j'entendais un prédicateur qui pourrait s'empêcher tout le monde de dire « Oui, à chacun et à chacune. » En français, quand on dit « chacun », ça comprend aussi « chacune ». Et quand on dit « les hommes », ça comprend aussi « les femmes », parce que l'humanité est faite à la fois d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on veut tout en parler de ça, distinguer. On n'en sortira pas si on continue comme ça. Je me demande comment on arrivera à parler, parce que... Et alors, on devrait faire la même chose du côté féminin. Hein, parce que quand on emploie un mot féminin, les personnes humaines, il faut pas dire hommes et femmes, il faut pas croire que les personnes, c'est seulement les personnes féminines. On n'aboute pas. Les personnes, ça veut dire les hommes et les femmes. L'humanité, ça veut dire les hommes et les femmes. Quand on dit chacun, ça veut dire chacun et chacune. Et alors là, on arrive à une espèce de parler français abominable. Alors là, moi, j'y suis très sensible quand je lis les journaux et quand j'écoute les médias. On se demande comment on va finir par parler, parce que on n'arrivera pas à en sortir. Puis alors, sans poser des problèmes, c'est quand même scandaleux qu'en français, le soleil soit masculin, puis la lune féminin, etc. Ah oui, manque de peau, en allemand, c'est l'inverse. C'est le soleil qui est féminin, puis c'est la lune qui est masculine. Ça n'a aucune importance. Si bien, alors, on va se trouver très embêté, parce que alors, dès qu'un mot qui désigne une jolie chose est masculin, il faudra plutôt c'est joli, il faut mettre un féminin. Comment voulez-vous qu'on en sorte à partir de cette dissociation qu'on fait entre l'homme et la femme? Et c'est pas une question de mépriser la femme ou de mépriser. C'est une simplification de langage, et qui est considérable. Bon, enfin, ça c'est un petit détail, ça n'a pas d'importance. Alors, je vous dis cela parce que je voudrais que vous sentiez que dans nos entretiens, et dans notre évangélisation personnelle, comme dans les évangélisations de la communauté chrétienne, il faut conjoindre culture et évangile. Culture et loi. Culture et parole de Dieu qui est évangile et loi. Et j'ai développé ça hier, ça ne faisait pas partie, j'aurais pas dû le faire hier, je devais le faire aujourd'hui, je ne vais pas me répéter aujourd'hui et vous montrer combien c'est important que l'on parle de n'importe quoi. C'est toujours en rapport avec la parole loi de Dieu. Toujours, toujours, toujours. Nous ne pouvons parler de rien sans nous poser la question de Dieu et de la loi de Dieu et de l'évangile de Dieu. C'est comme ça. Et alors c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Nous engageons des entretiens n'importe où, avec n'importe qui. Eh bien nous devons, si nous sommes chrétiens, toujours bien saisir qu'il y a un rapport avec la parole de Dieu. Parce que le principe de la Bible, c'est de ne pas être un livre qui nous parle des réalités célestes uniquement. Oui, il nous parle des réalités célestes, de Dieu, de Jésus-Christ maintenant au ciel, des anges, tout, hein, c'est sûr. Quoi. Mais je dirais, la Bible, dans 90% de ses paroles, nous parle de la vie sur la terre, et de ce que doit être notre vie sur la terre. Parce que ce que sera notre vie au ciel, ben, nous le verrons. Hein. C'est pas de ça que nous avons à nous préoccuper. Mais nous avons à nous préoccuper de ce que nous avons, notre vie sur la terre. Bien sûr, dans la communion de Dieu, dans la communion de Jésus-Christ, mais sur la terre, dans notre métier, dans notre famille, dans notre nation, dans notre devant l'État, devant... C'est ça. La Bible nous parle de ça. Alors, bien sûr, elle nous parle de ça. Il faut faire des transpositions, parce qu'il y a des choses qui ont changé. Je voulais montrer, à propos de l'exemple un peu bête de la balustrade sur le toit. Bon, mais je dirais, bon, qu'on fasse le changement qu'il faut au point de vue époque, au point de vue circonstance, d'accord. Mais la vérité reste. Quelle est la vérité de faire une balustrade sur le toit de la maison? Ça veut dire quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu dois veiller à la sauvegarde de celui que tu reçois. Et tu dois veiller à ne pas lui tendre des embûches pour qu'il se casse la figure, etc. Et ça fait partie de l'amour du prochain et du respect du prochain. Et du respect de l'image de Dieu qui est dans le prochain. Alors là, vous voyez que je n'ai pas voulu marquer les féminins qu'il aurait fallu marquer dans le baragouin d'aujourd'hui, mais parce que quand je dis le prochain, c'est la prochaine aussi, enfin, bon. Alors, je laisse ce deuxième point et je passe au troisième point, droit naturel et loi naturelle. Je vous ai dit que sur certains points, notre frère vénéré, le pape Jean-Paul II, dit des choses extrêmement justes en ce qui concerne le mariage, l'homosexualité, etc. etc. Mais en même temps, il y a une chose qui ne colle pas, en particulier dans Veritatis Splendor, Splendeur de la vérité, c'est qu'il fait tout le temps allusion, ou un peu tout le temps, non pas tout le temps, j'exagère, il fait fréquemment allusion au droit naturel, à la loi naturelle. Un petit peu, si vous voulez, comme s'il tendait la main aux incroyants pour leur dire, écoutez, nous avons quand même en commun le droit naturel, nous avons quand même en commun la loi naturelle. On pourrait dire peut-être, nous avons en commun, mais il ne dit pas le pape, il ne dit pas, mais on pourrait dire, ce serait plus biblique déjà, de dire la loi de création, le droit de création. Bon, mais... Il faut bien voir les choses. C'est que, certes, il y a une certaine connaissance du droit divin et une certaine connaissance de la loi divine chez tous les hommes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nation, quelle que soit... Voilà, ça c'est l'enseignement de Paul dans les trois premiers chapitres de sa lettre aux Romains. Bon. Et Paul résume ça en disant que la loi de Dieu opère dans le cœur de tout homme. Bon, c'est bien qu'il y a un minimum de loi de Dieu qui est connu même chez ceux qui ne connaissent pas les chiffres. Bon. Mais, je dirais, comment pouvons-nous savoir si cette partie de vérité que peut connaître tout homme est vraiment la vérité. Nous ne pouvons le savoir que par l'Écriture. Bon, donc c'est un bien que la loi de Dieu besogne dans le cœur de tous les hommes. Mais je dirais, elle n'habite pas vraiment le cœur de tous les hommes, et surtout, les hommes, très souvent, ne peuvent pas définir vraiment ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est juste ou ce qui est injuste. Pourquoi ? C'est parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été, dès l'origine, interdit aux hommes, et que les hommes doivent recevoir leur définition du bien et du mal de Dieu. C'est pas par une intuition que Adam savait qu'il n'avait pas le droit de manger de tel arbre et qu'il avait le droit de manger de tous les autres arbres. C'est pas par une intuition qu'il savait. Il le savait parce que Dieu le lui avait dit. Parce qu'il y avait une parole de Dieu qui le lui disait. Donc finalement, je dirais, il y a un certain élément de loi naturelle et droit naturel, mais on ne peut pas se référer au droit naturel et à la loi naturelle comme si le droit naturel et la loi naturelle étaient des choses clairement définies. Comme si on pouvait dire ça c'est de droit naturel, ça c'est de loi naturelle. Nous le savons que c'est de droit de création ou de loi de création, mais comment nous le savons ? Nous le savons à la lumière de la parole de Dieu. Et alors, c'est là où je trouve dommage que notre vénéré frère, le pape Jean-Paul II, fasse si souvent allusion au droit naturel, parce que finalement, les hommes peuvent s'imaginer qu'ils sont capables de définir la loi naturelle et de définir le droit naturel. Et au fond, c'est pas de la bonne évangélisation que fait Jean-Paul II quand il fait ça. Il ferait bien mieux de dire la parole de Dieu nous dit que, et d'ailleurs plus ou moins dans votre cœur cette loi de Dieu pénètre et agit. Bon, il aurait le droit de le dire, mais en disant que c'est la parole de Dieu qui nous définit le bien et le mal, il crée un début d'évangélisation. C'est-à-dire qu'au fond, il bloque au contraire l'évangélisation en invoquant si fréquemment le droit naturel et l'eau naturelle, parce que les hommes à ce moment-là peuvent se rengorger et dire nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui est mal. Et alors en même temps, je dirais, il est en train de détruire ce que par ailleurs il affirme. Parce que je prends par exemple la question des homosexuels. L'homosexualité doit être rigoureusement combattue. Mais les homosexuels doivent être aimés. Doivent être aimés, non pas du tout approuvés. Non, il faut combattre en eux l'homosexualité. Mais je dirais, en même temps, il faut aimer les homosexuels. Il ne faut pas les exclure de nos entretiens, les exclure de... Non, il faut leur parler. Mais je dirais, nous ne pouvons pas faire allusion au droit naturel ou à la loi naturelle, parce que pour un homosexuel, son homosexualité, c'est de la loi naturelle. Il vous dira toujours, moi je suis fait comme ça. Je suis fait comme ça. De même qu'il y a des gens qui naissent français, d'autres qui naissent allemands. Moi je suis né homosexuel. Remarquez, on peut le répondre, il y a des gens qui naissent français et qui peuvent devenir allemands, ou des gens qui naissent allemands et qui peuvent devenir français, et il peut y avoir des homosexuels qui deviennent hétérosexuels, et vice-versa. Bon. Mais si vous utilisez l'expression droit naturel, vous allez donner aux homosexuels l'impression, vous risquez de donner aux homosexuels, qu'ils ont un droit pour eux. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui. Ça, c'est effarant. Le droit des homosexuels. Et en particulier, le droit au mariage des homosexuels. Et puis le droit qu'ont les homosexuels d'élever des enfants, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, on fonce les choses. Alors, voyez-vous, je crois que, en ce qui concerne l'évangélisation, la position que j'appellerais réformée, au sens strict du mot réformée, la position réformée est beaucoup plus forte que la position du Saint-Père le Pape. Parce que le Saint-Père le Pape se contredit. Parce que d'une part, il dit l'homosexualité, c'est pas bon. Et d'autre part, il parle de droit naturel. Alors, il empêche l'homosexuel de se poser vraiment la question, est-ce que j'ai le droit d'être homosexuel? Est-ce que l'homosexualité est un droit? Et un droit qui doit être respecté. Et un droit qui doit être honoré. Alors, le pauvre pape, il ne s'est pas rendu compte, et d'ailleurs ça s'est produit, le lendemain du jour où il a publié son livre, il y a eu des manifestations terribles à Londres, des homosexuels, et des manifestations terribles d'homosexuels. Et pour la plupart des médias, moi je me suis bien rendu compte en écoutant la télévision à la suite de ça, c'est, pour la plupart des médias, c'est les homosexuels qui avaient raison, et c'est le pape qui était un méchant. Alors voyez à quoi aboutit le pape avec son histoire de droit naturel, et ça, il ne fallait surtout pas parler de droit naturel. Et il fallait indiquer. Et alors je dirais, vous aurez certainement l'occasion, parce que malheureusement, il y a un nombre beaucoup plus grand qu'il y a 50 ans d'homosexuels dans les relations que nous pouvons avoir. Et je dirais, il faut n'avoir aucun mépris pour les homosexuels. Je dirais peut-être, il faut avoir un grand amour, une grande intercession pour eux. Et il faut les aider en leur montrant que selon la parole de Dieu, l'homosexualité est un péché, l'homosexualité est un mal, et que normalement, ils doivent être sauvés l'homosexualité. Et alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il existe, pas en France, je ne crois pas que ça existe encore en France, mais il existe par exemple en Grande-Bretagne, aux États-Unis, il y a des... les alcooliques anonymes, c'est ça. Eh bien, je dirais, il y a aussi des associations, je dirais, d'homosexuels anonymes qui... Et alors, il faut aider les gens. La meilleure manière d'aimer un homosexuel, c'est de l'amener à prendre conscience du péché qu'est l'homosexualité. De même, la meilleure façon d'aimer un homme qui vit dans l'adultère, c'est de lui montrer que l'adultère est un péché. De même que la meilleure façon d'aimer un voleur, c'est de lui montrer qu'il doit restituer ce qu'il a volé, etc. etc., etc. Autrement dit, il y a quelque chose à dire. Mais je dirais, bien sûr, je reprends une remarque qu'avait fait notre ami Almeras, ben, il ne faut pas asséner la loi de Dieu sur les gens. Mais il faut, dans un entretien, peu à peu, fraternellement, mais fermement, leur montrer ce que dit la parole de Dieu. Ce que dit la parole de Dieu. Et comment la parole de Dieu envisage la vie sexuelle des hommes. Oui, j'allais dire, et des femmes. Et non, la vie sexuelle des hommes, ça comprend aussi la vie sexuelle des femmes. Enfin, on en est à toujours devoir définir les choses. Enfin, j'en arrive à mon... ça doit être... Oui, c'est l'avant-dernier. Un petit mot, triomphalisme, défaitisme. Vous savez, nous vivons à une époque où Jésus l'avait annoncé, il l'avait annoncé en particulier à l'apôtre Pierre, avant que le coq chante « Tu m'auras renié trois fois ». Nous sommes à une époque où les chrétiens, comment dire, se comportent largement. En n'osant plus, à la limite, n'importe qui peut dire n'importe quoi de ce qu'il pense, de ce qu'il croit, sauf le chrétien. Et alors que le chrétien est appelé à dire la parole de Dieu, eh bien, le chrétien est muet. Est muet. Souvent, il se tait. Il se tait. Je viens de lire une série d'articles qui a été publiée, une série d'articles de Michel Bertrand. Michel Bertrand, qui est le président du Conseil national de l'Église réformée de France, est un homme que je connais personnellement, pour qui j'ai le plus grand respect, mais qui est capable, et il l'a montré dans ses articles, de dire les choses et les plus effarantes. Au fond, il a fait une suite d'articles dans lesquels il montre que les chrétiens et l'Église, aujourd'hui, ne peuvent rien dire. Ne peuvent rien. Alors, il ne dit pas comme ça, parce que s'il le disait comme ça, ça ne passerait pas. Mais si on lit de près, c'est ça que dit Michel Bertrand. Et il ne faut pas. D'ailleurs, si les chrétiens se mettent à dire quelque chose, avec netteté, c'est du triomphalisme. Alors là, voyez-vous, toujours s'oppose ce que j'appelle le triomphalisme et le défaitisme. Il ne faut pas être triomphaliste, c'est vrai. Mais il faut rejeter aussi le défaitisme. Nous avons d'ailleurs des paroles de Jésus-Christ à ce sujet. Par exemple, quand Jésus-Christ dit qu'il établirait, il construirait, il bâtirait son église, il ajoute les portes de l'enfer ne tiendront pas devant elle. Là aussi, il faut faire très attention. On fait un contresens formidable. Si vous creusez le texte, vous apercevez que c'est ça que dit Jésus. Les portes de l'enfer ne tiendront pas contre l'Église. L'Église peut enfoncer les portes de l'enfer. Tandis qu'on lui fait dire en général le contraire à ce verset. On veut dire, voilà, les offensives de l'enfer n'arriveront pas à détruire l'Église. C'est une position défensive. Non, 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 ce que dit Jésus, c'est offensif. Vous pouvez y aller. Les portes de l'enfer ne tiendront pas contre vous. Et cette parole de Matthieu 16, 18, nous la trouvons plus développée dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset, je pars du verset 26, oui c'est ça, au vainqueur, à celui qui garde, c'est-à-dire qui observe mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les frappait comme on brise les vases d'argile. Là, ça va tout à fait dans le même sens que l'Église qui peut renverser les portes de l'enfer. Mais, ça ne peut pas être du triomphalisme pour plusieurs raisons. Certes, notre labeur n'est pas vain. Ça, la Bible le dit. Mais nos tribulations elles-mêmes, la Bible le dit aussi, contribuent à la victoire. Mais je dirais, nous devons toujours rester humbles devant le Seigneur. Parce que finalement, quand la parole du Seigneur nous accompagne dans une offensive victorieuse, si nous avons la victoire, ça plusieurs psaumes le disent, c'est bon, ils le disent, enfin, imaginez, c'est pas le cheval qui donne la victoire, c'est pas l'épée qui donne la victoire, c'est le Seigneur qui donne la victoire. Oui, mais il donne la victoire quand même. Alors, il ne faut pas de défaitisme. Nous devons marcher normalement de victoire en victoire. Et quand anormalement nous arrive une défaite ou une chute, nous devons demander pardon et nous reprendre. Mais, et nous devons savoir aussi que nous aurons toujours des tribulations, une croix à porter pour suivre Jésus, des souffrances à supporter. Et cependant, nous pouvons avancer sans triomphalisme, mais avec espérance et convaincu du triomphe final de Jésus-Christ. Et je précise, du triomphe de Jésus-Christ sur la terre. C'est toujours la même chose, parce que on veut bien qu'il y ait des triomphes dans le ciel. Mais je dirais aussi bien l'ordre missionnaire du Christ à la fin de Matthieu que le Notre Père revienne sur la terre, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est fait au ciel. Voilà. Et Jésus ordonne, proclame, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bon, enfin, vous voyez, je passe un peu vite sur ce paragraphe triomphaliste des fétines, parce que l'heure passe et je voudrais aujourd'hui laisser plus de temps à notre entretien, et j'en touche au paragraphe dernier, au paragraphe E, l'application de la loi comme instrument de la reconstruction chrétienne. Si nous détachons l'évangile de la loi, comme d'ailleurs si nous détachions la loi de l'évangile, nous ne risquons pas d'aller dans le sens d'une chrétienté, dans le sens d'une reconstruction chrétienne. Parce que l'instrument majeur de la reconstruction chrétienne, ce sont les commandements de Dieu. C'est la loi. C'est dans l'observation de la loi concernant le gouvernement de soi-même, de la loi concernant le gouvernement du mariage et de la famille, de la loi concernant le gouvernement de l'Église, de la loi concernant le gouvernement de l'État, que une nouvelle chrétienté, qu'un nouveau Moyen-Âge, qu'une nouvelle civilisation chrétienne commence à être possible. Et je dirais, en ce moment, nous avons affaire au blocage j'allais dire, au cul-de-sac auquel aboutissent les humanismes. On peut prendre les humanismes de gauche, les humanismes de droite, les humanismes du centre. Donc, n'importe quel humanisme, tous les humanismes sont de plus en plus acculés à un cul-de-sac. On n'en sort pas. Quand on est dans un cul-de-sac, quand on est dans un blocage, on ne peut plus en sortir. On est coincé. Eh bien, nous allons vers ça. Ou bien, alors nous nous détournons et nous invitons nos compatriotes, nous invitons les autres hommes, nous invitons même les nations à sortir de ce cul-de-sac en revenant vers Dieu, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, la loi de Dieu. Et alors c'est là où les détails de la vie prennent leur importance. Parce qu'on pourrait aussi justement développer une théologie du travail selon la Bible, donc selon aussi de l'économie selon la Bible. On pourrait reprendre les questions qui se posent aujourd'hui aux hommes. Et ils sont coincés, de plus en plus coincés. Vous savez que c'est terrible de penser qu'en France, à l'heure actuelle, il y a plus de 5 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de la pauvreté. C'est dramatique. Et si on fait le total, à l'heure actuelle, vous avez 12% des personnes qui devraient être actives qui sont en chômage et en blocage. Quel que soit le pays, ça aboutit à un blocage. Alors, il y a eu le blocage terrible auquel nous venons d'assister. Tout le monde croyait que le communisme en Russie soviétique, c'était pour toujours. Ça, là, c'était installé, c'était définitif, tout ça. Personne, d'ailleurs, n'y a fait grand-chose. Hein. Souvent, alors on dit, grâce à celui-ci, grâce à... pas du tout. Par l'opération du simple jugement de Dieu, tout ça, ça s'est écroulé. Mais je dirais, je crois que la démocratie sous forme capitaliste de l'Occident, on va dire, je pense aux États-Unis, je pense aux États-Unis, je pense aussi à la France, ça va s'écrouler pareil. Je veux dire, toutes les formes d'humanisme parviennent à un blocage. D'ailleurs, les États de la démocratie de l'Ouest arrivent peu à peu à ce blocage. À ce blocage. On n'y peut rien. Et alors, chaque fois, on entend « Ah, mais il faut faire ci contre le chômage. Ah, mais il faut faire... » Ça ne peut aboutir à rien. Parce qu'il faudrait revenir à la loi de Dieu. Il faudrait revenir à ce que dit Dieu au sujet du travail. Il faudrait revenir à ce que dit Dieu dans ses commandements. Et en particulier dans le commandement, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, le 7e jour et le repos du Seigneur ton Dieu. Non. Il faudrait revenir. Il y a des ajouts. Tant que l'homme ne veut pas écouter ce que Dieu dit, et tant que l'Église ne dit pas ce que Dieu dit, il n'y a aucun espoir pour sortir du blocage. Nous allons vers des blocages. Hein. Moi, j'en ai vu déjà. Quand j'ai visité Moscou, c'était 20 ans après la Révolution. C'était en 1937. Ben, c'était effarant. C'était effarant. Et, si vous voulez, je crois que Berbiaïev, pour reprendre un exemple, il est un des rares hommes à avoir bien vu que ça allait s'écrouler, tout ça. Ok, de 27, date de où il a écrit son livre, jusqu'à 1990, date où l'écroulement des Soviets a commencé. J'avais bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce qui se passe actuellement en Russie fait peur. Parce que qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus les structures totalitaires et coercitives du communisme, mais alors on tombe dans l'invraisemblable, dans des gens qui font fortune en 3 jours, dans un banditisme qui se développe, dans... C'est effarant ce qui se passe en Russie. Pourquoi? Parce que c'est pas en imitant les nations occidentales que la Russie va se tirer d'affaire. Et alors c'est pour ça que le rôle actuellement de certains orthodoxes et de certains chrétiens en Russie est important. Notre membre du conseil de faculté, la Danielle Bohn, qui a habité pendant des années en Russie et qui connaît bien la situation, elle nous en parlait à la fin de mémoire il y a quelques jours, et parce qu'elle y est allée récemment et tout. C'est terrible. On est tombé de la coercition totalitaire communiste à une espèce d'anarchie libertarienne où n'importe qui peut faire n'importe quoi, où il y a une multitude croissante de gens qui meurent de faim et une minorité qui grandit aussi d'une certaine façon, enfin qui restera une minorité, mais une minorité importante qui se remplit les poches et qui, je répète, peut faire fortune en quelques jours. C'est pas ça. Alors, évidemment, je comprends très bien que ceux qui s'en mettent plein les poches puissent dire oh, c'est quelle bonne chance que le communisme se soit effondré. Mais le problème n'est pas là. C'est pas en se tournant vers la démocratie occidentale que la Russie se sortira de son guépier. C'est en revenant à Dieu et en écoutant à nouveau la parole de Dieu. Voilà. Alors j'ai terminé mon
question par rapport au mouvement contre l'avortement.
Oui.
Et qu'est-ce que vous pensez de ceux donc, qui organisent des sittings, voire d'autres manifestations plus violentes dans les cliniques pour empêcher les avortements.
Oh, je ne pense pas que des violences puissent contribuer à faire quelque chose. Ce que je crois, voyez-vous, c'est que malheureusement, trop de chrétiens, même lorsqu'ils sont convaincus du crime qu'est l'avortement, n'osent pas le dire dans les entretiens, les rencontres qu'ils peuvent avoir. Moi, vous savez, on revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a une sorte de lâcheté des chrétiens quant à l'affirmation de leur foi. Ils n'osent pas. Remarquez, je ne leur jette pas la pierre parce que il m'est arrivé dans ma vie de taire ma foi. J'en suis pas fier, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et je crois que c'est toujours mauvais de taire sa foi. Et nous devons, je dirais, quand ça nous arrive, comme Pierre, nous en repentir pour que le Seigneur nous relève et nous redonne d'être plus courageux. Mais je pense que c'est ça qui est important. Je crois beaucoup plus à l'affirmation. Et ce qui me frappe, c'est la distorsion qu'il y a. Par exemple, en France, pas le protestantisme est tellement petit, mais je vois par exemple du côté catholique, je suis frappé de voir combien les positions très nettes et à mon sens très saines de mon vénéré frère le pape Jean-Paul II sont peu suivies par les évêques et encore moins suivies par les prêtres et ne sont suivies que par des laïcs, quelquefois. Il y a des petites notes comme ça, il y a une petite note. J'achète toujours le Figaro du samedi, parce que le Figaro du samedi est joint à plusieurs revues, et ma femme et moi, nous avons beaucoup les mots croisés, et c'est des revues, il y a beaucoup de mots croisés. Alors nous avons généralement notre provision de mots croisés de la semaine avec le Figaro du samedi. Et bien, dans le dernier numéro du Figaro, il y a un petit billet d'André Frossard, je pense que vous connaissez, mais qui m'a assez étonné. André Frossard dit, il y a certains cercles du Vatican qui viennent d'indiquer qu'il y a plusieurs lectures possibles de l'Écriture sainte, la lecture ci, la lecture ça, etc. Alors il énumère les critico-historiques, féministes, révolutionnaires, etc. Et tout. Il n'y a qu'une, et on ne fait pas mention, il n'y a qu'une seule mention qu'on ne fait pas, c'est la lecture, il dit, entre guillemets, fondamentaliste. Et André Frossard ajoute, et cependant, à la messe, après qu'on ait lu l'Écriture sainte, on ajoute toujours et on chante et on crie « Parole du Seigneur ». Ça m'a frappé, je me suis dit « Tiens, André Frossard, là, il tape en plein dans le mille ». Mais je vois que dans l'ensemble, il n'y a pas tellement de catholiques. Et puis il y a des choses qu'on tait. Par exemple, moi je l'ai su que par ricochet, mais vous savez qu'il y a eu un procès à Bordeaux au sujet, je rejoins votre question, d'un groupe de gens qui ont été dans une clinique pour... Eh bien, ce que on n'a pas su et que j'ai appris, c'est que ces gens avaient reçu une lettre d'approbation et de soutien du cardinal de Courtrai. Le cardinal de Courtrai, vous savez, c'est l'archevêque de Lyon. Hein? Et alors, et là, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. On n'a pas dit que... pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, l'avortement passe comme lettre à la poche. Tout le monde en France est pour l'avortement. Enfin, je dis tout le monde. L'idée générale, c'est que tout le monde est pour l'avortement. Et alors, je crois que il faut que nous témoignions à ce sujet dans nos entraînements et tout ça. Mais alors, par contre, je crois que toute pénétration de force dans une clinique ou dans un hôpital où se pratique des avortements, des manifestations soi-disant pour empêcher des avortements et tout, ça, moi, je crois que c'est... Mais par contre, je sais qu'il y a une association catholique qui fait, à mon sens, un travail pas mal. C'est une petite association, mais qui fait pas mal de travail en ce sens qu'ils font une espèce de... Ils développent un SOS pour les femmes enceintes. Et ils essayent de faire savoir partout qu'on peut téléphoner qu'une femme enceinte elle peut parler de la question. Parce que vous savez, c'est terrible à l'heure actuelle. Vous avez des femmes enceintes dont c'est le mari ou le concubin qui leur impose un avortement. Et je dirais, vous avez des femmes qui se trouvent, donc il y a la pression des médias, il y a la pression de l'entourage en particulier, la pression du mari souvent. Le contraire est plus rare, mais il paraît que ça arrive aussi d'un père, d'un mari qui désire être père, qui souhaite avoir un enfant, et c'est sa femme qui, d'un point de vue erroné ou sous des conseils qu'elle a reçus, qui veut avorter. Alors on a, c'est un problème très grave, parce que aux États-Unis et en France, dans l'ensemble des pays occidentaux, les avortements sont plus grands, bien plus grands que les naissances. Le nombre des avortements est plus grand que le nombre des naissances. Alors ça pose des problèmes, et puis surtout qu'on reconnaît que pour la plupart des femmes, après, il y a des répercussions, non seulement physiologiques, mais des répercussions psychologiques, et je vais dire des répercussions spirituelles quelquefois.
Oui, parce que ça met en jeu, il y a certains chrétiens font une sorte d'appel à la guerre sainte dans ce domaine. Et ça met en jeu finalement des gouvernements qui s'opposent.
Oui.
Alors, qui est responsable dans un tel cas? Est-ce que les parents ont le droit de tuer ou pas? Et est-ce que quelqu'un de l'extérieur a le droit d'intervenir? C'est un petit peu comme pour l'école, les problèmes par rapport à l'école laïque.
Oui, mais je crois que l'intervention doit avoir lieu, mais sous la forme que je vous ai dite. C'est-à-dire sous la forme soit d'entretien, soit de vous savez que dans votre famille ou dans votre cercle d'amis, une jeune femme pense avorter, ou que... je crois qu'il faut avoir le courage là, de parler. Et de parler, parce que finalement, ça sert souvent, non seulement la vie à naître, mais ça sert même le bien d'un ménage, le bien d'une femme. Parce que l'idée la plus fausse, et sur laquelle d'ailleurs la foi chrétienne rejoint tout à fait la génétique, c'est quand une femme dit « mon corps est à moi ». Mais justement, l'enfant qu'elle porte, n'est pas à elle, et n'est pas à elle, et la définition génétique de cet enfant est particulière, individuelle, et n'est pas celle de la femme. Et c'est pas vrai de dire que c'est le corps de la femme, c'est dans le corps de la femme, mais c'est formé quelqu'un qui a une individualité et une particularité tout à fait spécifique, et ça, je crois qu'il faut qu'on rejoigne. Finalement, on traite quelquefois de l'embryon comme on traiterait d'un abcès ou comme on traiterait d'un cancer ou comme, c'est effarant. c'est Ferrand. Alors ça, je crois qu'autant nous devons intervenir de cette manière-là, chaque fois que nous pouvons, autant je crois que toute forme de violence n'est pas bonne. C'est pas ça, parce que ça provoque au contraire la réaction inverse. Le plus souvent, ça provoque la réaction inverse. Et on pense aussi que nous voulons imposer par la force la loi de Dieu. Or, précisément, la loi de Dieu ne doit pas être imposée par la force, mais elle doit être proposée par le témoignage, par ce que va dire le chrétien, ou ce que devrait dire l'Église. Là, par exemple, moi, je suis très étonné de voir combien les Églises n'enseignent rien. Je pense au point de vue des catéchismes, par exemple. Surtout au catéchisme, souvent, ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui ont 15-16 ans, enfin qui arrivent à 15-16 ans. C'est très grave. On n'aborde pas les questions sexuelles. On n'aborde pas la question du mariage, ou très peu. On n'aborde pas la question de l'avortement. Bon, et alors c'est la même chose pour les prédications. Qu'y a-t-il comme prédication? Combien souvent y a-t-il des prédications? Vous savez, de cet ordre concret. Moi, mon idée, si vous voulez, profonde, au point de vue théologique, c'est que la Bible est un livre historique, concret, les faits. Et tandis que trop souvent, la théologie, c'est une pensée abstraite. Alors c'est pour ça qu'il devrait y avoir même une réforme, à mon sens, une réforme de la dogmatique. Parce que en dogmatique, nous avons hérité un peu de la scolastique médiévale, c'est-à-dire nous entrons dans des catégories qui sont beaucoup trop abstraites. Beaucoup trop abstraite. Tandis que la Bible est concrète. Il faut partir, par exemple, vous abordez la Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il ne faut pas l'esquiver. Pourquoi? Pourquoi tout à coup ce pluriel? Parce que le pluriel de majesté n'existe pas en hébreu. C'est une blague. Ce n'est pas un pluriel de majesté. C'est un vrai pluriel. De même qu'Elohim, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un mot pluriel. Comment se fait-il que le nom de Dieu soit un nom pluriel? Alors, ça pose la question. Alors, j'aime mieux qu'on commence déjà par la lecture de la Genèse à aborder l'approche, il y a une approche de la Trinité, en disant déjà, Dieu est un. Alors, ce théologien allemand dont je vous parlais, la Schussmaier, c'est très intéressant, parce que il montre vraiment, enfin, à mon sens, il démontre exégétiquement que l'ange du Seigneur et l'esprit du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur lui-même. Mais c'est le Seigneur sous une personne particulière, dans une personne particulière. Si bien qu'il y a le Père créateur, il y a l'ange du Seigneur qui est le Fils, et il y a l'esprit du Seigneur. Et alors aussi, il y a la fameuse rencontre d'Abraham, qui est très étrange, parce que Abraham nomme parfois au singulier les trois visiteurs qu'il reçoit. Comment se fait-il qu'il s'adresse à eux comme s'ils n'étaient qu'un, et qu'en fait, il s'adresse aussi à eux comme étant trois? Alors là, c'est, nous sommes renseignés, nous n'avons pas à rentrer dans le domaine des icônes, mais nous sommes, ça va tout à fait dans le sens de l'icône traditionnelle orthodoxe qui représente la Trinité comme les trois convives, enfin, connaissez la célèbre œuvre de Roublev, où l'on voit les trois, trois personnages. C'est très dangereux, d'ailleurs, cette icône. Elle est bien, en un sens qu'elle est très belle, elle est bien, en ce sens qu'elle nous montre une certaine pluralité, mais elle est dangereuse dans la mesure où elle nous présente les personnes divines comme on représenterait les personnes humaines. Si vous voulez, trois personnes séparées, c'est pour ça que la Trinité est représentable au point de vue iconographique, on ne peut pas représenter la Trinité. Alors les orthodoxes me répondent quand je leur parle de ça, ils me disent « Ah mais oui, mais c'est symbolique. C'est symbolique. » Je dis « Oui, mais alors... » Alors il me dit « Oui, mais l'icône, mieux que l'art occidental, dans les images orthodoxes, les images orientales, ont un élément symbolique évident. » Mais c'est vrai qu'on doit partir de la Bible et beaucoup plus au point de vue théologique. Moi, je crois qu'il faut une vraie révolution théologique, en ce sens qu'il faut quitter les catégories philosophiques héritées de la scolastique médiévale. Il faut complètement abandonner ça. Et puis, développer la théologie, comme dogmatique, une théologie biblique. Je crois qu'au fond, la dogmatique devrait être davantage une théologie biblique. Mais alors, à ce compte-là, au fond, on fera de l'excellente théologie, si on fait ça comme ça, même avec des enfants, et même dans un catéchisme d'adultes, et même dans des prédications. Parce que là, vous ne pouvez pas employer un vocabulaire ésotérique de théologien, et vous êtes obligé de partir du concret biblique. Et donc... Bon, allez-y.
C'est une question en rapport avec la peine de mort.
Oui.
Je reprends un peu, parce que maintenant, la peine de mort est remise sur tapis, on discute par rapport aux meurtres des enfants, les viols des enfants, etc. C'est un peu la suite de la question que je posais hier.
Quand étions là-bas ?
Ici.
Ah, ici.
Par rapport à la peine de mort appliquée. À la loi morale et son rapport avec aujourd'hui. Parce que cette loi est toujours valable.
Oui, c'est-à-dire que je ne sais pas avec qui je me suis entretenu de la question hier dans le... C'est avec vous ? Nous étions là près du bar, là dans la salle des étudiants, et nous avons un peu évoqué ça. Voyez-vous, je crois à la juste place de la peine de mort telle qu'elle est définie dans l'Écriture, et en même temps, je suis contre l'introduction de la peine de mort dans les États démocratiques modernes. Pourquoi ? Parce que si l'on rétablissait la peine de mort, comme le réclame par esprit quelquefois de vengeance, pour ne pas dire de haine, certaines personnes. Alors, il y a des gens qui crient, par exemple, quand il y a eu viol et meurtre d'enfants, il y a eu des manifestations dans un village ou même dans une ville, criant à mort, ou bien quand l'accusé arrive dans le fourgon cellulaire, on crie à mort, c'est tout juste, on ne devrait pas casser les portes du fourgon et le lyncher, etc. Donc il y a une haine et une vengeance. Or, le point de vue biblique n'est absolument pas celui-là. Et alors justement, je racontais à ceux qui me parlaient cette question, je disais par exemple, il y a eu un personnage atroce au Moyen-Âge qui s'appelait Gilles de Rais. Gilles de Rais est coupable du meurtre de centaines d'enfants. Et finalement, lui, il a été condamné à mort et exécuté, et lui-même d'ailleurs se soumettait, d'ailleurs il s'est repenti, et je veux dire, il s'est soumis tout à fait à cette peine de mort. Mais ce qui était frappant, c'est que tout le long du parcours, entre son lieu de détention et son lieu d'exécution, tout le peuple du coin était là. Et parmi ce peuple, il y avait des tas de gens qui avaient eu des enfants, les parents d'enfants qui avaient été mis à mort par ça. Eh bien, tout ce peuple chrétien, c'est là la différence entre le Moyen-Âge et c'était moderne, ne criait pas à mort, mais priait pour le condamné et pour son salut, pour sa repentance et pour son pardon par Dieu. Voilà. Alors, vous voyez, on est... C'est un climat vrai, où la peine de mort, je dirais, peut être assumée par le condamné comme elle peut être assumée par les autres. Parce que ça se fait, je dirais, dans une atmosphère complètement, qui n'a rien à voir avec une atmosphère de haine. La peine de mort, c'est pas une question de haine. Bon. Alors, je me méfie aussi beaucoup, parce que si on rétablit la peine de mort, très vite, elle sera utilisée, comme ça a été déjà le cas dans les États totalitaires communistes ou nazis, elle sera utilisée pour des raisons politiques, ou sous des prétextes politiques. Et on n'appliquera pas la peine de mort là où vraiment elle pourrait être appliquée, mais on en fera un instrument de domination et de crainte. Alors, paradoxalement, moi je me méfie de la réintroduction de la peine de mort dans nos législations occidentales. Si vous voulez, il y aurait un plébiscite en France sur « êtes-vous pour ou contre la peine de mort ?» Honnêtement, je voterai contre. Alors que je crois tout à fait à la justesse de la peine de mort telle que l'édicte l'Écriture sainte. Vous voyez ? Mais je dis, je ne suis pas pour la peine de mort comme ça, dans une société non chrétienne, avec un État non chrétien, dans une atmosphère où l'on est complètement détourné de Dieu, et tout, je dis non, c'est pas le moment. Mais je crois que dans une société chrétienne, puisqu'on parle de reconstruction chrétienne, il y aurait à nouveau une civilisation chrétienne qui s'édifierait. Je crois que forcément, dans la soumission à la loi de Dieu, il faudrait peut-être des années, tout ça. C'est pour ça que c'est toujours faux de dire « Êtes-vous pour l'application des lois de Dieu dans les États contemporains ?» Ça ne se pose pas comme ça. Ça ne se pose pas comme ça. Parce que, oui, il y a un consensus aussi qui doit régner. Il y a un consensus qui doit régner. Il faudrait que la France soit redevenue ou devienne vraiment un pays à très grande majorité chrétienne, et je dirais vraiment chrétienne par la régénération, pour que, à nouveau, certaines lois puissent être appliquées. Autrement dit, je ne crois pas du tout qu'on puisse prendre la Bible et puis dire, voilà, maintenant, en 1994, il faut appliquer ça. Non, pas du tout. D'abord, je crois que ça n'est pas possible, et puis ce ne serait pas bon, parce que si on le faisait, on l'imposerait. Et alors, je rejoins ce que nous disions hier, on aurait quelque chose qui irait du haut vers le bas. Alors que le renouveau chrétien, la reconstruction chrétienne, doit se faire du bas vers le haut. Et c'est l'inverse. C'est pas quelque chose qui doit être imposé, comme par une espèce de fascisme chrétien, christianisme-fasciste, ou christiano-fasciste. Non, il faut que tout vienne d'un renouvellement profond d'un peuple. Alors, ce qui est mon espoir, c'est que Jésus-Christ dit « Faites des nations des disciples ». Eh bien, le verbe, il y a un verbe, il faudrait qu'en France existe le verbe « discipler », ça n'existe pas. Mais il est, dans le grec, il est dit « discipler les nations ». Il n'est même pas dit, quelquefois on traduit « faites des disciples des nations », comme s'il fallait tirer des disciples parmi les nations. Non, non, Jésus dit qu'il faut discipler les nations. Alors c'est quand même un point de vue qu'on escamote. Par individualisme, souvent, on pense que Jésus là donne un ordre de faire les disciples individuels, bien sûr. Si on procède par l'évangélisation et la régénération, il y aura des choses. Mais je dirais, le but, c'est d'avoir des nations qui soient des disciples. D'avoir des nations chrétiennes. Et ça, c'est hors de l'esprit de la plupart des contemporains, parce qu'on fait de la religion et de la foi chrétienne quelque chose de purement individuel, sans répercussion sociale, sans implication culturelle, sans... Oui. C'est pas si... Peut-être pas obligé d'être d'accord avec moi, bien sûr, mais je veux dire, je crois que c'est dans ce sens qu'il faut. Il faut prendre les textes comme ils nous sont donnés. Moi, je crois qu'on est beaucoup trop à l'écart des textes.
Pensais au texte de la femme adultère.
Oui.
Qui, suivant la loi, aurait dû être lapidée.
Oui.
Mais qui, en fait, ne l'est pas.
Oui. Mais c'est pas juste. Je veux dire, suivant la loi, elle ne doit pas être lapidée. Pourquoi ? Parce que la loi donne des précisions, entre autres précisions de la loi de Moïse. Il faut, quand il y a adultère, et qu'il y a des gens pris en état d'adultère, d'abord il y a l'homme et la femme. Bon, alors dans le cas particulier, il n'y a que la femme. Bon, deuxièmement, il faut qu'il y ait plusieurs témoins, qui surprennent le choses. Alors là aussi, il faut voir qu'est-ce qu'ont voulu dire les gens en disant, en amenant, on est des femmes prises en flagrant délit d'adultère. Comment a-t-elle pu être prise en flagrant délit alors que l'homme avec qui elle était n'y est pas ? Et troisièmement, il fallait que l'exécution commence par que la lapidation par exécution commence par citer les témoins eux-mêmes. Alors voilà, sur ces trois points, la loi n'est pas observée. Alors Jésus, d'ailleurs, le fait remarquer. Il dit que ceux d'entre vous, parce que, ah oui, j'oubliais le quatrième point, c'est important, il faut que ceux qui accusent, les accusateurs témoins, ne soient pas eux-mêmes coupables de ce même fait. Autrement dit, il faut que il fallait que les hommes qui amènent la femme adultère à Jésus n'aient pas commis l'adultère eux-mêmes. Bon, alors, ça, donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. On croit que les commandements, là, de la loi de Moïse, c'est expédier les adultères à la mort, comme ça, là. Pas du tout. Pas du tout. Il fallait des tas de conditions précises, et tout. Bon. Et, d'autre part, le conjoint était très important aussi. Là où, par exemple, une femme avait été adultère, si le mari pardonne à la femme, et reçoit la femme, on n'a pas le droit de... Il n'a pas fait le droit. Ça, c'est le cas qui se trouve dans le Nouveau Testament au sujet de Joseph et de Marie, parce que Joseph, dans un premier temps, a pensé que Marie avait commis l'adultère. Puisque là aussi, on tombe dans une chose. Si vous savez quoi, la différence de pour nous, les fiançailles, c'était la première partie du mariage. Autrement dit, c'est vrai que Marie et l'épouse de Joseph, même si le mariage n'a pas encore été achevé par la cérémonie, parce que dès qu'il y a les fiançailles, ça fait partie du mariage. Vous ne pouvez pas revenir sur des fiançailles, tandis qu'aujourd'hui, quand des gens sont fiancés, simplement, on peut annuler le mariage. Non, ça, on ne pouvait pas. Ça bloquait. Alors, en fait, si vous voulez, la question de l'adultère, dans ce texte de Jean, si je me souviens du chapitre 8 de Jean, et bien dans ce texte, il n'y a absolument rien qui soit l'observation de la loi. Alors, Jésus les reprend surtout par le fait que, voilà des zigotos auxquels on pose la question, que ceux d'entre vous, parce que c'est ça la loi, que ceux d'entre vous qui ont été des témoins, lapident. Ça doit commencer par. Et eux qui doivent. C'est pour ça que c'était très grave d'être témoin. Parce qu'on savait qu'on serait tenu de procéder, si le jugement était accordé, c'est eux qui devaient commencer. Et alors, Jésus leur pose la question, que ceux d'entre vous qui n'ont pas commis ce péché, tandis qu'un par un, mes zigotos, là, se sentent eux-mêmes coupables d'adultère, etc. Parce que là, il ne s'agit pas ceux qui sont sans péché au sens général du mot. Parce qu'alors, à ce moment-là, il n'y aurait eu jamais aucune exécution, parce qu'aucun homme n'est sans péché. Bon. Mais là, il fallait ne pas avoir commis le péché d'adultère. Et bien, un par un, nos zigotos se retirent. Voilà. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a plus de témoins. Il n'y a plus d'accusateurs. Jésus pense bien, parce qu'il connaît toute chose, et il sait que la femme est adultère. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Donc, il est tout à fait en règle avec la loi sur ce point. Il n'a pas à condamner, il n'a pas été témoin, il n'y a pas d'accusateur. Bon, moi non plus, je ne te condamne pas. Et il ajoute, et c'est ça la parole importante, la parole la plus importante, va et ne pêche plus. Autrement dit, tu reçois le pardon, il lui déclare en quelque sorte le pardon, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu incarné, il a le droit de... Va et ne pêche plus. Autrement dit, il faut que la femme, maintenant, chante, dit donc qu'elle était vraisemblablement vraiment coupable d'adultère, mais il ne peut pas y avoir de procès, il ne peut pas y avoir d'exécution, étant donné que toutes les conditions qu'exige la loi ne sont pas remplies.
Il me semblait que c'était plutôt le pardon qui ressortait de ce texte.
Oui, c'est le pardon. C'est le pardon qui sort de cette. Mais attention, il ne faut pas du tout confondre, comme on tend à le pardon, qui est une réalité spirituelle, et le jugement civil. Je reprends le cas de Gilles de Rais. Gilles de Rais, l'Église lui a donné l'absolution. Il s'est repenti. Bon. Donc, si vous voulez, spirituellement, il est restauré. J'ai parlé de loi restauratrice. Il est restauré, il est pardonné. N'empêche que les juges, un juge n'a pas à pardonner ou ne pas pardonner. Vous vous rendez compte, d'ailleurs, dans quoi on rentrerait si tout à coup le droit se faisait, les juges ayant à pardonner ou à ne pas pardonner, ça, non, le juge il doit estimer un truc, si quelqu'un est coupable, il doit le condamner, si quelqu'un est innocent, il doit le relâcher. Les juges n'ont pas à faire entrer la notion de pardon. Si bien que Jules de Ré va mourir exécuté, bon, mais en même temps, il va mourir pardonné. C'est pas sur le même plan. Le pardon se situe au plan spirituel et le jugement se situe au sujet du droit pénal. Hein, Mais c'est un texte très beau. Et c'est un texte, vous savez, alors là aussi, il y a Jean-Marc Berthoud, le frère de Pierre Berthoud, a publié dans une revue anglaise tout un article justement sur l'épisode de la femme adultère. Et alors surtout, il s'en prend à l'idée que c'était un texte, vous savez, il y a deux textes qu'on en voit promener souvent dans les éditions qu'on met entre crochets, même dans la Bible à la Colombe on le fait, c'est Jean, lui, le passage de la femme adultère, et puis c'est la fin de l'évangile de Marc, le chapitre 16 de Marc, on fait sauter la fin de Marc, et on fait tout ça. Pourquoi ? Parce que, c'est la vérité d'ailleurs, il y a des manuscrits qui ne comportent pas ce passage, ou ces passages, parce qu'il y a des manuscrits qui ont Jean 8, mais qui n'ont pas la fin de Marc 16, il y en a d'autres qui ont la fin de Marc 16, mais qui n'ont pas Jean 8, là, mais vous avez un manuscrit. Mais c'est absolument pas une raison. Pas une raison, parce que, en fait, nous avons l'Église, quand elle a reconnu tel écrit comme parole de Dieu, l'a reconnu sous telle forme de manuscrit. Or, à partir du moment où le canon a été défini par l'Église, ces deux passages de la fin de Marc et de Jean 8 font partie, et je dirais, dans la mesure où nous croyons que Dieu, par sa providence, conduit l'histoire et donc aussi a conduit les cheminements quant à la reconnaissance de ce qui devait être reconnu comme parole de Dieu ou pas, on ne peut pas y revenir. Si vous voulez, nous ne pouvons pas corriger la Bible. L'idée qu'on puisse corriger la Bible, c'est une idée que peuvent avoir des libéraux, des modernistes, qui ne croient pas à la divine inspiration de l'Écriture, mais si l'on reconnaît la divine inspiration de l'Écriture, on est obligé de prendre l'Écriture telle que finalement elle nous est transmise. Parce que Dieu a inspiré, mais il n'a pas seulement inspiré. Par sa providence, c'est ce que disent nos confessions de foi, par sa providence, il a veillé à ce qu'elle puisse nous être transmise. Parce que c'est pour...